Eh bien, je vais me présenter. Voilà, je me présente. Donc, je suis le docteur Sermier. Je suis homéopathe. Je suis installée donc dans le Var, où j'exerce donc aussi bien l'activité de médecine générale et d'homéopathie. Alors, je vais donc pour commencer à soulever donc cette question: qu'est-ce qu'une IVG ? Oui.
Je suis pas sûre qu'on n'entend pas très bien.
Vous entendez mieux là ? Voilà, oui, je pense qu'en me collant au micro, peut-être que ça va aller mieux. Alors, je vais peut-être le prendre. Voilà, donc, là, voilà, comme ça. Donc, pour répondre déjà à cette question, donc, qu'est-ce qu'une IVG ? Donc, j'ai commencé donc par, effectivement, commencer par dire que c'est une question donc, qui est si simple, et pourtant son élucidation n'en est pas moins complexe. Le terme même d'IVG est en lui-même porteur d'une ambivalence. À côté du sens d'interruption volontaire de grossesse, les initiales font évoquer de même l'insuffisance ventriculaire gauche. Autrement dit, une insuffisance de cœur. Le cœur de qui ? N'oublions pas que la grossesse implique une triade mère, père, enfant. Une IVG, il s'agit d'une grossesse chez une femme qui ne peut supporter son état et qui est dans le désir d'interrompre le processus vivant dont le déroulement naturel aboutirait à la naissance d'un enfant. Il y a un refus des lois biologiques naturelles, mais il y a aussi un sentiment profond, conscient ou inconscient, de culpabilité, qui s'ajoute à un sentiment de responsabilité confuse devant son impuissance sociale. À cette demande, la médecine propose donc pratiquement deux méthodes. D'une part, l'IVG médicamenteuse, le RU, dont on a parlé un petit peu ce matin, qui est une pilule abortive provoquant une expulsion naturelle de l'embryon, équivalent d'une fausse couche. Moyen possible pour les grossesses de moins de 7 semaines d'aménorrhée. C'est certainement un moyen moins traumatisant, tout du moins pour le conscient, car pour l'inconscient, l'impact sera, quelle que soit la méthode, le même. Elle permet d'éviter l'hospitalisation et surtout toute intrusion instrumentale dans le corps. La douleur des contractions utérines, bien que pouvant être atténuée par des analgésiques, peut présenter une certaine garantie de l'acte lui-même en tant que principe de réalité. L'autre méthode en général proposée est une méthode qui est donc chirurgicale, qui est une technique par aspiration, pouvant être pratiquée jusqu'à la 14e semaine d'aménorrhée en France, se faisant donc essentiellement sous anesthésie locale. Elle nécessite par contre une hospitalisation, on devient malade, le regard et l'estime de soi en est certainement plus abîmé. Et comme on l'a évoqué ce matin, c'est vrai qu'en fait, bien que le RU semble être une méthode plus douce, elle n'en est pas moins dans ses conséquences. C'est vrai que dans ma pratique, quand les personnes me parlent de RU, j'ai pu remarquer certaines dissociations, c'est-à-dire que des personnes me disant qu'elles ont senti en fait le moment où elles ont vécu cette expulsion comme étant traumatisante, d'autant qu'elles se retrouvent seules, qu'elles sont dans l'angoisse de savoir si tout est expulsé, et elles vivent cette expérience dans une grande inquiétude. Et puis d'autres qui, par contre, l'ont vécu comme si c'était des règles, comme si on leur a donné une pilule, ils ont eu leurs règles, et en fait, il n'y avait pas eu de problème, sans décrire de terribles douleurs. Pour les aspirations, il en va de même. Moi, j'ai remarqué autant des personnes qui l'ont bien vécu, enfin, je mettrai ça entre guillemets, bien sûr, et d'autres personnes qui ont été donc très traumatisées, bon, d'une part par le personnel, mais ce n'est pas tant le personnel qui a été traumatisant, c'est bien sûr ce qu'elles ont pu projeter. Et c'est vrai que je m'en suis fait la remarque en me disant, c'est un petit peu comme les jeunes femmes et les femmes qui ont des douleurs de règles. C'est vrai qu'autant il y a des femmes qui vont décrire des douleurs de règles épouvantables, et puis d'autres qui, au contraire, n'ont jamais eu aucune douleur lors des règles. Mais comme on l'a évoqué ce matin, donc je passerai donc sur ce sujet. Par contre, je vais vous évoquer, donc comme je l'avais signalé dans cette ambivalence que j'ai donc vue dans le mot IVG, cette insuffisance de cœur. Et c'est par le cas de Corinne qui m'amène à vous parler donc de cette insuffisance de cœur. Corinne est une jeune femme de 30 ans qui est indépendante, autonome, vivant depuis quelques années une relation qui lui convient avec un homme marié. Ce dernier a toujours été clair qu'attend son non-désir de divorcer. Suite à un oubli de pilule, Corinne tombe enceinte, ce qui la plongea dans une confusion, partagée entre son désir d'avoir un enfant et la réaction de rejet de son ami. C'est ainsi qu'elle absorba donc le RU, me décrivant des douleurs physiques à la mesure de sa souffrance morale. Lors de ce tourment, elle s'est sentie, me dit-elle, incapable d'aimer seule cet enfant et totalement reconfrontée à son enfance. Elle-même élevée par une mère célibataire, dont elle ne s'est pas sentie aimée ou fantasmée comme telle, comment aimer quand on s'est vécu non aimé ? Comme si l'insuffisance d'amour, même fantasmée, ne pouvait engendrer que l'interruption. De cette insuffisance dont il faudra grandir, ne pourra se faire que dans une rencontre avec soi, réélaborer les différentes étapes, amener à se renarcissiser et ainsi se sentir capable. Aimer, c'est se sentir aimable. C'est aussi dans le cadre de cette insuffisance d'amour qu'est l'angoisse de perte, perte de l'amour de l'autre, que bien des scénarios peuvent se vivre. Quand dans le couple, où l'enfant peut représenter le rival, ravissant l'amour du père ou de la mère, que bien des conflits peuvent se faire jour. C'est le cas de Julien, marié, ayant déjà un fils avec lequel il se vit déjà en totale rivalité. C'est alors que sa femme se retrouve enceinte et c'est en véritable dictateur qu'il imposa à sa femme l'IVG, refusant l'idée même d'avoir un autre enfant. Julien a été élevé par trois femmes, sa mère, sa grand-mère maternelle et sa sœur aînée, en véritable emblème phallique. Son père était parti à ses 4 ans et ne l'a plus revu. Ce qui lui importe dans le couple, c'est sa femme, je dirais même sa mère, prolongeant ainsi ses désirs fusionnels incestueux. Restant fixé à un stade très oral où ni la distance normalement posée par la mère, ni la différence posée par le père ont été établies. Et cette séparation prématurée avec le père ont laissé libre cours à ses fantasmes d'avoir évincé le père, le laissant ainsi dans une relation oedipienne, d'où une culpabilité et une angoisse de castration, se réactivant à l'annonce de cette nouvelle grossesse. Mais aussi ce départ du père, laissant la place au sentiment d'abandon, et tel un abandonnique, c'est en menaçant d'abandon qu'il prend le pouvoir. Sa femme, elle-même, dans une angoisse de perte, peur de perdre l'amour de son conjoint, qu'elle se soumit à ce choix. C'est ainsi que ces fragments d'histoire rapportés permettent de réaliser comme l'IVG représentative de toute une problématique où la décision peut être difficile. Et c'est en bénéficiant d'un travail psychologique que la femme, que le couple, peut franchir cette étape. Comprendre qu'un oubli de pilule, un acte manqué, une IVG, est un événement qui a un effet dynamique, inconscient, structurant ou déstructurant de la vie symbolique de la femme et de l'homme avec elle responsable de cette grossesse interrompue. Comprendre que l'IVG n'est pas un simple effacement technique d'un moment de la vie génitale et que l'IVG ne soit pas ainsi ramené à une simple contraception.